Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h07 sur RMC, merci d'écouter les grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi avec Pierre-Ambroise Boss, Pascal Duprat, Walid Acherchour ce matin, les grandes gueules du sport qui sont également à retrouver, vous le savez, tous les jours en podcast. Vous pouvez notamment retrouver notre débat si vous venez tout juste de vous réveiller sur le PSG dès maintenant sur l'appli RMC. Dans 30 minutes, la punchline GG signée ce matin, Laurent Nicolin qui veut défendre Vincent Labrune. Est-ce que ça sera votre cas aussi, les GG? On verra ça dans 30 minutes. Dans une heure, Laurent Bonadéi, Gérald Baticle à la place d'Hervé Renard et de Thierry Henry. Est-ce que c'est un retour en arrière pour les Bleuets et l'équipe de France féminine, sans oublier à 11h45 les GG contre-attaque. Vous connaissez le principe, les GG qui prennent les commandes, elles prennent les commandes de l'émission en proposant un débat. Vous pouvez voter sur le compte X des grandes gueules du sport dès maintenant pour votre débat préféré et le grand gagnant lancera le débat à 11h45. Walid Acherchour est excusé puisqu'il nous quittera un petit peu plus tôt à 11h30 tout à l'heure. Mais en revanche, il y a deux débats que l'on vous propose. Celui de Pascal Duprat. D'abord, essaye de nous vendre ton débat, Pascal. Qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui?
Eh bien, écoutez, moi, nous sommes en période de Vuelta pour ce qui est du cyclisme. Et on a Ben O'Connor qui a fait un numéro il y a deux jours, qui est en tête et qui a le maillot rouge, leader. Ouais. Et cette semaine, on a appris que Vincent Lavenue, le fondateur d'AG2R, celui qui a révélé de nombreux coureurs, dont Ben O'Connor, vient de se faire licencier sans ménagement. Donc ça m'interpelle et j'aimerais qu'on en parle.
Très bien. Ok. Pierre-Ambroise, quel est ton débat? Avec le micro, pardon.
Excusez-moi. Je voudrais parler d'Armand Duplantis, tout récent, à nouveau recordman du monde avec 6,25. Et est-ce que ça peut devenir le plus grand athlète de tous les temps? Il est notamment à 100 mètres à courir contre Carsten Warholm. Ça peut être très intéressant.
Et il peut aller encore plus haut, hein, c'est ce que disait Sergei Bubka. Hein. Je ne sais pas jusqu'à où, mais
Il ira plus haut, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il peut gagner surtout 5 fois les JO? Voilà, c'est des choses comme ça.
Ok, plus grand athlète de tous les temps, Armand Duplantis, est-ce qu'il peut le devenir? Voilà le débat proposé par Pierre-Ambroise Boss. La réponse, ça sera à 11h45. Et en attendant, vous pouvez aller voter, bien sûr, sur le compte X des Grandes Gueules du Sport.
RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
C'est une annonce qui a secoué le monde du tennis. Yannick Sinner, numéro 1 mondial, a été contrôlé positif à deux reprises en mars dernier. On a appris cette semaine qu'il avait été innocenté. Présent à l'US Open, il a donné une conférence de presse hier. Vous l'entendrez dans un instant. Est-ce qu'il doit faire l'US Open? Dans le coin droit, la team Oui, représentée par Pascal Duprat, Pierre-Ambroise Boss. Dans le coin gauche, il est seul, mais il aime ça. La team non, représentée par Walid Acherchour. Avant de lancer les hostilités, messieurs, on accueille Eric Salio, qui lui va partir demain pour la grosse pomme New York, l'US Open pour RMC. Salut Eric.
Bonne journée à tutti.
Ah, il parle italien, effectivement.
Salut Eric.
Il parle toutes les langues, il est surprenant ce Eric Salio.
Salut à tous.
Eric, Yannick Sinner a donné une conférence de presse hier, une conférence de presse évidemment très attendue.
Oui, c'est un Sinner soulagé qui s'est présenté hier soir en conf de presse, 10 minutes pendant lesquelles l'Italien s'est exprimé avec une maturité assez bluffante. Il était attendu au tournant, hein, il expliquait n'avoir rien fait de mal. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il a pu convaincre le tribunal indépendant de sa bonne foi, c'est parce que l'homme qui a déclenché cette affaire, ce scandale, son préparateur physique Umberto Ferrara, a tout de suite compris comment le Clostebol était entré dans le corps du numéro mondial.
Quand ils nous ont informé que j'avais été testé positif, la première chose que nous avons essayé de faire, c'est savoir de quelle substance il s'agissait. Mon préparateur physique, Umberto, est le gars qui connaît vraiment, vraiment bien tout ce processus et il a un très haut degré de pharmacie. Nous lui avons donc demandé et il a tout de suite su que c'était son spray. Sachant qu'il s'agissait du spray et sachant aussi comment il s'était retrouvé dans mon système, nous sommes retournés directement les voir et nous leur avons expliqué tout ce qui s'était passé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu la chance de continuer à jouer.
Alors Yannick Sinner a vécu de longs mois avec cette boule au ventre. Le verdict est tombé lundi. L'ITIA, l'International Tennis Integrity Agency, a sorti l'information mardi. L'affaire a fait grand bruit, vous l'avez vu. Yannick Sinner a eu vent des réactions outrées de certains joueurs et il a évoqué cette inévitable réputation.
En ce qui me concerne, je crois que j'ai continué à jouer au tennis parce que, dans mon esprit, je savais que je n'avais rien fait de mal. J'ai toujours eu l'intention d'être un joueur loyal. Évidemment, cette affaire pourrait changer certaines choses, mais ceux qui me connaissent très bien savent que je n'ai jamais fait et que je ne ferai jamais quelque chose qui va à l'encontre des règles. Je sais qui sont mes amis et qui ne le sont pas. Mes proches savent que je ne ferai jamais ça et ils se serrent les coudes. Pour ce qui est de la réputation, nous verrons au fil du temps, parce que ça, je ne peux pas vraiment le contrôler.
Alors, sans physio, sans préparateur physique, évidemment, ils ont été renvoyés à la maison. Yannick Sinner va connaître une routine différente à l'US Open. Ses débuts sont prévus mardi face à l'Américain Mackenzie McDonald. Il sera vite fixé sur l'accueil populaire qu'il va recevoir.
Donc évidemment, Eric, merci, tu restes avec nous. La question, est-ce que Yannick Sinner doit faire l'US Open ? Il va faire l'US Open, mais on voulait absolument vous poser cette question. Et d'ailleurs, sur le compte X des Grandes Gueules du Sport, vous pouvez encore aller voter, parce que vous le savez, c'est le bras de fer. Et pour l'instant, c'est la team qui est un petit peu en retrait. 36% seulement pour Pierre-Ambroise Boss et Pascal Duprat. La team non est en tête avec 64%. Donc c'est à vous, messieurs, de commencer, Pierre-Ambroise et Pascal. Pascal, on t'écoute sur pourquoi il va faire l'US Open.
Je sais que Walid est très populaire, mais je comprends pas pourquoi on se rallie derrière lui. Pourquoi tous nos auditeurs, ou pratiquement un tiers des auditeurs seulement, sont pour nous.
Donc
ce que je veux dire, c'est que il me semble que Lithia a pris une décision, à savoir blanchir Sinner, qui a, avec ses avocats, probablement démontré qu'il avait en fait été victime d'une contamination, tout simplement. Et son qu'on retrouve dans son sang, ce sont des valeurs qui sont infinitésimales. Donc, il a été donc blanchi. À partir du moment où il a été blanchi,
il n'y a plus de débat.
Il n'y a plus de débat. Il a le droit de disputer l'Open, l'US Open. Par contre, ça, il n'empêche que, comme vous tous, je pense qu'il y a deux poids, deux mesures. Mais ça, c'est pas ce qui empêchera Sinner de disputer l'US Open, puisque la justice de référence de son sport a jugé qu'il était apte et que ce n'était pas un dopage intentionnel.
Mais Pascal, François, tu t'es trompé. La question, c'est pas Sinner va-t-il jouer l'US Open. C'est Sinner doit-il jouer l'US Open.
Oui, mais
on sait qu'il va le jouer.
Il le doit.
Question, on fait plus de débat.
Il va faire l'US Open. Non, mais il va et il doit, tout simplement, parce que il a été blanchi.
Ah oui,
tout simplement.
Bon, alors je sais pas
si on veut aller plus loin. Mon dernier argument, c'est des stéroïdes anabolisants en si petite quantité.
Ah, c'est pas
grave. Mais attends, c'est pour le développement rapide de la musculature. Donc, si tu regardes bien, c'est 0,000000001.
Donc, on autorise un dopage léger, quoi. Même léger.
Non. Alors, ça soulève un autre problème pour moi. Donc, les dopages par prélèvement sanguin, c'est pas assez fiable. C'est sujet à interprétation. Donc, allons à des prélèvements capillaires.
Ah, bah, justement, tiens. Avant que Walid prenne la parole, les prélèvements capillaires, ils ont été faits là sur Yannick Sinner.
Moi, j'ai pas l'impression. Hein, j'ai épluché le compte rendu du tribunal indépendant. Bon, il a été très très bien défendu parce qu'il a une batterie d'avocats qui sont très très costauds. Mais j'ai noté il y a quelques jours une interview du professeur Jean-Claude Alvarez sur le site du Point, qui est toxicologue. Il a dit, il admet une contamination, c'est possible. C'est prouvé scientifiquement, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il ajoute, j'espère juste qu'on lui a fait une analyse capillaire. Pourquoi ? Si un sportif prend régulièrement du Clostebol, il en aura plein les cheveux. Donc là, on a un gros point d'interrogation.
Alors Walid, prélèvement capillaire, toi, on peut pas en faire.
C'est un peu
mais
compliqué,
en revanche,
à une époque, c'était possible.
Je me permets, parce que moi aussi, je suis pas loin de toi.
La barbe, ouais.
Sur ce débat,
ou autre chose.
Tu es le seul, toi, ici, et on entendra Pierre-Ambroise dans un instant venir au secours de Pascal Duprat. Ouais,
il n'a pas besoin.
Non, il doit pas faire l'US Open.
Non, enfin, pour moi, ça soulève. Enfin, de toute façon, les questions, c'est oui ou non. Donc, il faut se positionner. Mais ça soulève pas mal de questions sur ce qui se passe dans le tennis. Sur le, moi, j'ai envie d'ouvrir des débats là-dessus. C'est-à-dire que quand on voit ce qui s'est passé aussi avec Simona Halep.
Suspendu 4 ans, peine réduite à 9 mois.
Voilà, moi, si aujourd'hui je suis Simona Halep, je l'ai là. Hein. Yannick Sinner, c'est bien. On a bien vu quelques voix du tennis s'élever publiquement. Lucas Pouille, Kyrgios, Chapovalov. Et puis même si on déplace le problème sur d'autres sports, je me suis renseigné. Là, il y a un cycliste allemand qui lui aussi a pris 2 ans. Ouais. On lui a pas dit non, t'inquiète pas, tu peux faire le prochain tour. Là, tu peux faire la prochaine course. On lui a dit non, toi en fait c'est terminé. Donc ça soulève des. Moi, je suis pas un spécialiste du dopage, mais ça soulève quand même ce fameux deux poids deux mesures qui peut être très très mal interprété. Donc moi je dis non, et je pense qu'il va avoir une ambiance autour de Yannick Sinner dans cette US Open qui va pas être géniale pour le tennis, encore plus s'il le gagne.
Alors effectivement, tu as cité Simona Halep, on peut citer Maria Sharapova qui avait été suspendue 2 ans aussi, peine réduite à 15 mois, Martina Hingis aussi.
Simona Halep, elle a plaidé son innocence en disant que c'était aussi une erreur, etc.
Ouais, elle a la contamination.
Oui, mais c'est pas le même produit, mais.
Elle avait un passeport biologique pas très clean aussi, attention.
Hein. Oui, ça change tout, hein, les passeports biologiques. C'est vraiment la grande différence.
Le cas n'a pas
été résolu. Pierre Ambroise, je suis assez surpris que tu dises oui, il doit faire l'US Open parce que toi-même, tu as été suspendu. Pour des no-shows, hein, parce que voilà, non, t'étais pas là quand
fait,
il fallait.
Pas tout à fait la même chose.
Exactement, mais non, mais il faut le préciser quand même pour les auditeurs.
Oui, absolument. Bon,
t'étais pas là quand il fallait effectivement contrôler. Et il y a des athlètes qui ont été suspendus pour ça. Donc, tu pourrais. Moi, j'étais assez surpris. Tu défends en quelque sorte Yannick Sinner.
Je défends personne.
C'est deux poids deux mesures.
Je défends le système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui peut endommager plus Sinner aujourd'hui, c'est les instances qui peuvent encore faire appel, notamment l'AMA et compagnie. Mais au présent, l'indicatif, il est blanchi. Donc, je rejoins totalement Pascal Duprat quand il dit que, en fait, ce sera un aveu de faiblesse carrément de pas venir. Ça veut dire quoi, en fait, si je refuse de faire l'US Open, qu'est-ce que ça veut dire?
Là, vous avez raison.
Ça veut dire que on dit en gros, je veux pas le faire parce que ça décrédibiliserait certains. Voilà.
Ce qui peut décrédibiliser l'US Open, on en parlait en off avec Eric Salio, c'est qu'il remporte l'US Open justement.
Non, mais même. Le fait de ne pas y participer.
Vous en faites pas, il y a Djoko.
Non mais il a été blanchi, mais il y a eu l'histoire de l'amende et des points enlevés aussi.
Oui.
Il retirait ses points et son prize money de Dean Anewels.
Ouais. Voilà, donc c'est quand même blanchi, mais sanctionné.
Non, mais c'est normal, sanctionné, parce qu'il est contrôlé positif 2 fois.
Parce qu'il
est normal qu'il soit sanctionné.
Il y a une négligence quelque part.
Il est blanchi par rapport au présent. Et en fait, le vrai problème de cette histoire, c'est la police qui est complètement en retard. Et d'ailleurs, ça a été admis par la directrice de l'ITA, je pense. Il y a tellement de produits différents, d'anabolisants et compagnie, qu'ils ne savent pas exactement par quel bout prendre les choses et les contaminations, ils savent pas exactement quel taux. Voilà, on est totalement en retard là-dessus. Et c'est pour ça certainement qu'il a été blanchi, pas parce qu'il s'appelle Yannick Sinner et qu'il est numéro 1 mondial. Et il y en a plein qui ont été contrôlés positifs à cette substance, qui ont été blanchis. Enfin voilà, je me rappelle d'une athlète qui avait utilisé du baume à lèvres et il y avait du clobestol dedans. En Italie, tu l'as sans ordonnance, hein, ce produit-là.
On dit pas qu'il a pas raison et que voilà, il y a eu cette contamination. Ouais. Ça peut être réaliste.
Moi, je suis d'accord avec toi, ça peut cacher quelque chose d'autre.
Mais et c'est pas, normalement,
et si on a, si on a
non,
mais c'est pas ça que je dis.
Non,
je
mais normalement,
si,
comment ça se passe?
Dans ce cas-là, on croit au système, on n'y croit pas.
Contrôlé positif, tu es suspendu quand même, le temps de te défendre.
Là,
ça a été très rapide.
Justement, t'en parlais. Moi, j'ai eu une suspension. Alors, il y a des suspensions provisoires. Et puis après définitive. En l'occurrence, la suspension provisoire n'a jamais eu lieu. Et dès qu'il fallait se justifier, il l'a fait. Le résultat était concluant pour cette instance.
Ils l'ont cru, quoi, en tout cas.
Bah, ils l'ont cru. Ils ont pas le choix. C'est comme ça, en fait. Lui, il a été défendu. C'est comme dans la justice, en fait. Il y a la présomption d'innocence jusqu'au moment où, si dans 10 ans son passeport biologique.
Et puis après, il y a une décision de justice.
Voilà. Alors, c'est ça. Je suis d'accord.
Sur le sondage, pour l'instant, vous êtes toujours derrière, hein, les amis Pierre Ambroise et Pascal, toujours. 64% en faveur
de
Sinner.
Il part avant la fin de l'émission pour aller remercier les auditeurs qui ont voté pour lui.
Ils m'attendent devant le studio.
Trop facile, celle-là.
Ils m'attendent devant le studio, là. Ils m'attendent.
Attendez, on a le coup de fil là sur le téléphone rouge des grandes gueules du sport. Bonjour.
Bonjour.
Qui nous appelle?
Vous allez me reconnaître, c'est Sarah Pitkovski.
C'est Sarah Pitkovski qui nous appelle en direct dans les grandes gueules du sport. Sarah. Salut Sarah. Ouais. Tu veux réagir au débat là sur Yannick Sinner?
Alors, oui, évidemment.
Qu'est-ce que t'en penses?
Il y a plein de choses justes que vous avez dit, mais sans rentrer sur le fond, sur la forme, il y a quand même un obscurantisme qui est absolument terrible et qui jette l'opprobre sur le tennis. C'est le fait que cette histoire, elle est restée quand même cachée pendant près de 6 mois. C'est quand même assez remarquable aujourd'hui de garder ce type d'informations.
C'est normal, c'est confidentiel, c'est des dossiers confidentiels, c'est normal.
Mais, mais des dossiers confidentiels, celui de Simona Halep, il n'est pas resté confidentiel. Mm. Et plein d'autres sportifs dans plein d'autres sports, ça fuite. Alors, juste pour petite information, il a été suspendu. Oui. Je vais vous donner les dates. C'est d'un ridicule. Il a été suspendu entre le 7 et le 8 avril et entre le 17 et le 19 avril.
Quand il dormait, quoi.
Exactement. Donc, c'est là, en fait, c'est qu'il puisse prouver qu'il y a eu une contamination et que c'était pas intentionnel, bien sûr. Mais les délais avec lesquels ça a été traité montrent qu'il y a deux poids, deux mesures et qu'il y a un traitement quand t'es numéro un mondial ou quand t'es 80 mondial. Un autre cas, il y a Mikael Immer, un Suédois qui est 80e mondial, qui a fait 3 non-shows comme toi, Pierre Amboise.
Un copain.
Eh ben, il a pris 2 ans.
Ils étaient ensemble.
Il a pris 2 ans.
Bah, tu vois, justement,
il a pris 2 ans.
C'est
la grande différence. Il a jamais eu un test positif. Donc, en fait, l'intentionnalité, les sanctions et la manière dont les dossiers sont traités, pardon, ça prouve que quand t'es numéro 1 mondial et quand t'es 80 ou quand t'es 200e mondial, tu n'as pas le droit au même traitement.
Mais c'est une question de évidemment, c'est toujours la même chose, c'est pas une injustice. Ça... Tu te prends des avocats qui connaissent des gens.
Mais c'est pas normal.
Mais évidemment que c'est pas normal.
Non, mais en fait, si on veut bien répondre à la question, vous m'avez chopé tout à l'heure.
Oui, Pascal.
Si on veut bien répondre à la question, alors merci encore une fois, Sarah, pour tout ce que tu viens de nous dire. C'est très enrichissant. Mais ça répond pas à la question. La question, c'est qu'il a été blanchi. Qui est deux poids, deux mesures. C'est une chose certainement évidente. Et d'ailleurs, peut-être que Sinner, il est coupable. Mais il s'est tellement bien défendu que l'autorité...
T'as raison, l'autorité, parce qu'il y a des coupables partout dans le monde qui sont extrêmement bien défendus.
Donc, non, mais la question, c'est doit-il faire l'US Open puisqu'il est blanchi. Point barre.
Mais non, parce que Mikael Immer n'aurait pas pu le faire. Donc il faut une équité là-dessus.
Mais oui, mais c'est pour un autre. Alors il fallait dire, trouvez-vous que au tennis, il y a deux poids, deux mesures. C'était ça la question.
Vous trouvez
En
fait, c'est ta faute, François. François, c'est ta faute. Qu'est-ce que c'est que cette question?
La question, Pascal.
Kylian et François, c'est de votre faute.
Kylian Verhoeve, notre producteur, qui en prend plein la tête, donc il a rien demandé.
Moi, je viens de dire, il te dit si la question, c'est est-ce que c'est une injustice qu'il joue l'US Open, il aurait répondu oui.
Mais donc, en fait,
bien sûr.
Walid, vous voulez mon sentiment en lisant l'article ce matin et en apprenant qu'il a viré son kiné et son collègue? Moi, j'ai l'impression qu'il est coupable. Je te dis tout de suite.
Donc, t'es d'accord avec nous? Donc, en fait, vous comprenez.
Non, je suis pas d'accord avec vous.
Mais Pascal, tu comprends la question comme t'as envie de la comprendre.
On te parle. Mais comment? Vous me posez une question, je la lis.
Il faut la tourner correctement, la question. La question, c'est, tu sais très bien que ils vont pas te faire un livre sur la question. Donc,
Walid, tu es d'accord avec moi. C'est en fait François et Kylian qui ont foutu le bordel avec leurs questions entre nous.
Comment il arrive à retomber sur ses pattes?
Il y a un débat encore plus important, c'est qu'il y a une énorme hypocrisie entre les sports co et les sports individuels. Je sais qu'RMC aime parler de foot, mais comme beaucoup de monde, et il y a certainement beaucoup de dopage dans le foot, il y a certainement beaucoup moins de contrôle aussi que dans le tennis.
Je suis pas certain. Non, franchement, là, je suis pas testé dire ça. Oh là là.
Pogba, il vient de 4 ans. Il y a Nasri, il y a 4-5 ans, qui avait pris.
Je suis pas convaincu que tous les joueurs.
Le problème, c'est que si tu me dis qu'il y a un produit dopant qui améliore ta technique au foot, parce que l'essentiel, c'est comment maîtriser le ballon.
Je suis d'accord avec toi, la technique,
je pense que des stéroïdes anabolisants, ça sert à rien au foot. Si t'as les pieds octogonaux, t'as les pieds octogonaux.
Non, mais par exemple.
T'as des Timberland au pied,
L'exemple le plus connu, c'est Lionel Messi qui a pris des hormones de croissance pendant toute sa jeunesse. Il est quand même bien solide dans tous les contacts et ça lui a bien aidé dans sa carrière.
Je voudrais quand même qu'on trouve Sarah qui a appelé le téléphone rouge des grandes gueules du sport. Sarah, sur le cas de Yannick Sinner, est-ce que toi aussi tu te dis il faut absolument pas qu'il gagne cette US Open pour le bien du tennis?
Alors non, je vais pas aller jusque là parce que quand je prends le sportif, enfin moi j'aime beaucoup le jeu de ce joueur. On a besoin aussi aujourd'hui d'avoir des grandes confrontations, qui gagne ou qui gagne pas. Peu importe, en tout cas c'est pas parce qu'il gagne que ça va rendre plus compliqué l'affaire. En revanche, Ce que ce cas démontre, c'est que l'ATP, l'ITIA sont de mèche, sont capables aujourd'hui, pour le bien-être de l'image du tennis, de s'arranger de certaines choses pour pouvoir toujours garder une image positive. Mais je vais vous donner cette histoire de l'ATP, elle date depuis la nuit des temps. André Agassi, il l'a révélé lui-même dans son livre, qui prenait des anabolisants et des stéroïdes. Et on lui disait juste de pas jouer pendant 3 ou 4 mois. Il y a eu plein d'histoires comme ça, assez floues, où il y avait des joueurs et des joueuses qui disparaissaient pendant 3-4 mois. Alors, on peut inventer n'importe quelle blessure, c'est un sport individuel, donc c'est très facile. Mais on savait jamais ce qui était derrière. Et c'est ça qui est problématique. Et cette inéquité et ce manque de confiance, ce qui a révélé quelques joueurs en disant, attendez, là, vous nous racontez des salades. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que l'ATP était capable de cacher des histoires pour le bien fondé de l'image de son sport. Ça, c'est une vérité.
C'est qui le président de l'ATP, c'est qui le président de l'ATP, là?
Bah, c'est un certain Andrea Godenzi.
Ah bah oui, c'est un Italien.
Alors, on vous le met dans le mille. Il est de quelle nationalité? Il est italien. Voilà.
Oh, c'est bizarre. On va faire des raccourcis comme étrange. Ça.
Bon. Mais bon, je devais répondre non selon Pascal il y a 10 minutes.
Non mais encore une fois, y a-t-il deux poids deux mesures? Oui.
Voilà.
Merci.
Et juste une dernière chose. Heureusement que l'image de Yannick Sinner, elle est plutôt cool. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Parce que si ça avait été un autre joueur,
ah ouais.
Je vais pas citer son nom, qui aurait eu cette histoire, un mec qui a pris l'or aux Jeux Olympiques récemment. Là, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Publiquement.
Bah oui, bien sûr.
Médiatiquement, pardon, ça aurait été un.
Mais au niveau du résultat,
Si Djoko a ça, médiatiquement, il se fait.
Oui, bien sûr.
Avec les fantasmes qu'il y a déjà eu sur lui, etc. Si c'est Djoko, c'est pas comme maintenant. Hein.
Ouais. Non, mais est-ce qu'il est blanchi ou pas? C'est une deuxième question, plus importante.
Oui.
Mais oui, bien sûr.
En tout cas, merci beaucoup Sarah d'avoir apporté ton expertise sur ce. Merci beaucoup et on te retrouvera bientôt bien sûr dans les grandes gueules du sport. Bah, c'est pour ça qu'elle a appelé. Elle t'a bien aidé, mais de toute façon, tu n'avais pas besoin d'aide parce que la team Oui, vous perdez ce bras de fer, Pierre-Ambroise et Pascal. Vous n'avez pas réussi à même gagner un pourcentage, un petit point. Pour essayer de gagner ce bras de fer.
Les gens,
vous n'avez pas convaincu
de l'extérieur, c'est difficile de. Non, mais c'est vrai. Hein, le dopage, c'est déjà tellement complexe pour ceux qui en prennent certainement.
Ouais.
Alors on imagine bien que. Enfin voilà, c'est.
Après, quand on met en place un double mixte, Sarah Pitkovski, Walida Cherchour, c'est quand même dur de. C'est quand même dur de gagner.
Avec Eric Salio en fond en plus. Merci beaucoup Eric. Bon voyage du côté de New York et on te suivra évidemment. Et toi, tu vas interroger aussi tous les joueurs autour. De cette affaire Sinner, je pense que
je pense qu'il y aura des remous.
Ça risque de continuer de parler de tout ça du côté de New York. Merci beaucoup, Eric. Alors c'est pas Sarah, c'est la cloche. Là. C'est la cloche qui vient de sonner.
J'ai cru que c'était Christophe Cessieux.
C'est le moment de vous inscrire, vous l'avez compris, pour tenter de remporter la totale de la rentrée. Un MacBook Air, un iPhone 15, une Apple Watch, une PlayStation 5. C'est pour faire tourner, pour ouvrir le coffre, pardon, à RMC. Il faut envoyer coffre au 732-16. Coffre au 732-16. C'est dès maintenant que vous faites ça. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire, les 10h30 jusqu'à 10h35. Dans un instant, les grandes gueules reviennent avec une punchline, celle de Laurent Nicolin qui défend Vincent Labrune, le patron de la Ligue de football professionnel. Qui va le défendre ici? C'est dans un instant dans les grandes gueules du sport. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Elles sont en pleine forme, nos grandes gueules du sport, depuis 9h ce matin en direct. Pascal Duprat, Walid Acherchour, Pierre-Ambroise Boss. Dans un instant, ce sera le zapping des GG. Tiens, on va parler de Formule 1. Je vous parlerai aussi de ce spectateur qui dénonce l'immense arnaque de la cérémonie d'ouverture. Il était à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il n'a rien vu, donc il demande qu'on le rembourse. Voilà, ça sera dans un instant dans le zapping des grandes gueules du sport. Mais d'abord, c'est l'heure de la punchline. GG, elle est signée Laurent Nicolin, le président de Montpellier, qui défend Vincent Labrune, le patron de la Ligue de football professionnel.
RMC, la punchline GG.
Vincent Labrune a fait des erreurs, bien sûr. Tout n'est pas rose, je ne suis pas béat sur tout ce qu'il dit et fait. Mais heureusement qu'il avait été élu président il y a 3-4 ans. On a eu beaucoup de chance de l'avoir quand il y a eu Mediapro. Il a bien géré avec l'État pendant les difficultés post-Covid. Il a géré de main de maître CVC. On était très content d'avoir cette manne. Sans lui, on courait à la catastrophe.
Et on remercie Siri qui a un vocabulaire un peu moins fleuri que Laurent Nicolin, mais qui nous a totalement raconté ce qu'avait dit Laurent Nicolin dans l'équipe cette semaine au sujet de Vincent Labrune. Alors que les élections du président de la LFP doivent avoir lieu le 10 septembre prochain, il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour reprocher à l'actuel président son dernier accord avec DAZN alors qu'il visait le milliard d'euros pour la Ligue 1. Alors cette question, les grandes gueules du sport ce matin, Vincent Labrune est-il défendable ? Oui ou non ? Walid Acharchour.
Non.
Pascal Duprat.
Oui.
Pierre-Ambroise Boss.
Non.
Eh Pascal, tu vas être tout seul. Avec donc effectivement ces reproches faits au président de la Ligue de football professionnel, mais défendus donc par Laurent Nicolin notamment et par Pascal Duprat ce matin, Pascal.
Pourtant, je ne suis pas président de club. Hein, donc c'est pas moi qui ai participé à son élection.
C'est pour mais ça que c'est intéressant ce que tu vas nous dire.
Non, il faut. Bon, moi, j'en appelle simplement à la mémoire, et puis il faut scinder plusieurs choses. C'est-à-dire que quand il crée la régie commerciale, c'est pour véritablement sauver le football français. Et peut-être que certains interprètent ça comme c'était surtout une manne financière providentielle pour lui, parce que dans l'histoire,
il y a une commission de 3 millions d'euros qu'il aurait reçu.
Il s'est bien gabé, mais il aurait eu tort de pas le faire. D'ailleurs, ça a été autorisé par les présidents de club. Ah. Donc, les présidents de club étaient d'accord sur ce principe-là. Ils étaient tellement exsangues, ils avaient tellement besoin d'argent que la régie commerciale, qui prend 13% de tous les produits que la LFP récolte, eh bien, c'était encore une fois question
vital,
de survie.
Vital.
Question de survie. Voilà. Ensuite, il faut se rappeler que c'était une période post-Covid, c'était après le fiasco de Mediapro, et que on peut lui attribuer, alors il y en a qui aiment, je fais partie de ceux qui n'aiment pas, le fait qu'il y ait 18 clubs en Ligue 1 et 18 clubs en Ligue 2, c'est aussi pendant son mandat que ceci a été réalisé. Donc, il faut savoir scinder les choses. Un autre n'aurait pas fait mieux. Là où il est peut-être, où il s'est peut-être trop avancé, c'est qu'il a dit qu'il pensait que les prochaines négociations des droits télé devaient atteindre le milliard. Et là, force est de constater que le foot français en est loin. Cependant, s'il y a un grand différent entre le foot français et Canal+, il faut aussi dire que c'est pas de la faute de Vincent Labrune. Si Canal fait, comment dire, des misères en ne voulant plus participer à quelconque négociation avec la LFP, c'est pas du ressort de Vincent Labrune. Donc à ce titre-là, je pense qu'il est défendable et moi j'attends simplement, j'espère, en tant qu'encore une fois partie prenante du football, mais si je bosse pas en ce moment, bah, j'espère qu'il y aura des élections, qu'il y aura d'autres candidats qui pourront se présenter. Voilà.
Alors on parle effectivement de plusieurs noms, c'est Christophe Boucher, Alain Guérini, Stéphane Martin, Cyril Linette notamment, encore le député Carl Olive qui, s'ils sont élus dans la catégorie des indépendants, pourrait pourquoi pas concurrencer Vincent Labrune. Pierre-Ambroise.
Oh bah ils auront pas, ils le savent en plus, hein, pour la plupart, hein, ceux qui ont répondu à ces questions-là, ils auront pas les fameuses signatures.
Ah oui, ouais, les parrainages.
Les parrainages. Ouais.
Hein, ça sera difficile pour certains.
Ils admettent quasiment leur défaite avant que ça commence, donc c'est un peu plus complexe.
Oui, mais c'est pas du ressort de Labrune également.
Pourquoi tu le défends pas, toi, Vincent Labrune?
Non, c'est toujours la même chose. Pourquoi je le défends pas? Parce qu'il y a eu une gestion catastrophique. Et que voilà, moi je suis un peu contre le fait de dire qu'il a un peu sauvé tout le monde au moment où il le fallait. Voilà, ça fait un peu les moments d'après-guerre où il y a beaucoup de profit voilà pour les mauvaises personnes, et ça ressemble à ça. Alors moi je suis de la team où je pense que les clubs s'en sortiraient en faisant différemment, indépendamment, voilà, comme a pu le faire le PSG notamment avec toutes les ventes de produits et compagnie. Voilà,
après le PSG, ils sont dans une autre galaxie.
Non, ils sont dans une autre galaxie, bien sûr, mais ils sont, bah voilà, bah dans ce cas-là, c'est les gros qui sont aidés, les petits pas assez. C'est ça qui a causé aussi le tort à la Ligue 1, certainement. Mais je pense qu'ils auraient pu s'en sortir sans, en fait, en trouvant des solutions. C'est comme ça d'ailleurs que fonctionnent les cerveaux. Quand il y a pas de d'issue devant, c'est là qu'on va chercher des ressources insoupçonnées avec des gens, des petits génies qui vont nous trouver des solutions. Et là, en l'occurrence, on avait besoin d'1,5 milliard. Ça a été donné très gracieusement, je suis d'accord, mais bon.
Avec un deal avec CVC qui peut être aussi perdant.
C'est une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête quand tu signes, avec les petites astérisques que tu vois pas.
Oui, mais quand tu
prends des pourcentages, CVC, pour être très clair.
Oui, mais c'était le foot français était dans une ornière. Donc il fallait en sortir.
Ah c'est oui, facile mais aujourd'hui. C'est facile aujourd'hui d'amener de l'argent.
Aujourd'hui, c'est facile. Moi, ce que je dis, c'est tout simplement, et c'est la vérité. Ce sont les 40 présidents de club qui ont voté la Brune. Or aujourd'hui, ce que je trouve bizarre, c'est que certains qui ont voté pour la Brune sont en train de lui tirer dessus à boulet rouge.
Après, ils avaient
qu'ils s'en prennent.
Pascal, ils avaient confiance en lui, peut-être.
Et que, oui, mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'il n'ait plus confiance en lui? Ça, par rapport au départ.
La question du défendable, c'est plutôt sur sur l'histoire des droits TV, comment il a géré les droits TV, et surtout d'essayer d'avoir d'autres candidats pour essayer d'élever le débat et de voir comment le football français peut se sortir de ça. C'est surtout ça pour moi la question. Après CVC, c'est un autre débat, on va pas rentrer dedans. Ouais. On sait ce qui s'est passé. Malheureusement, ça va aussi même si ça a permis à certains clubs entre guillemets de se sauver, ça va aussi empêcher, je pense moi, la Ligue 1 à un moment donné de s'élever parce qu'ils vont devoir rendre leur argent pendant le reste de leur existence. Donc ça c'est aussi important de le dire. Mais sur les droits TV, par rapport à la stratégie de Vincent Labrune et ce qu'il imaginait et ce qu'il a eu, on est forcé de constater qu'aujourd'hui c'est dur, comme Laurent Nicolin, de venir hier et de le défendre en termes de timing. À part par loyauté, et ça c'est une qualité hein, d'être loyal dans la vie. Mais si on enlève ce trait de caractère,
si on enlève l'argent,
cette qualité, c'est très très dur de le défendre. Après, est-ce que Vincent Labrune va continuer ou non, ça c'est pas la question. C'est surtout, et on en a parlé un peu hier dans l'after, c'est d'ouvrir le débat à d'autres candidats, d'avoir d'autres candidats, et puis après chacun se fera, les présidents feront en fonction d'eux. Et après, là où Pascal a raison, c'est que si les présidents repartent sur Vincent Labrune,
des présidents, je la vois pas.
Oui, mais après tout dépend de pourquoi il y a pas fronde et c'est quoi les intérêts, pourquoi ça, c'est le pourquoi du comment, il est quand même intéressant, tu vois.
Les droits télé, ils sont surtout vitaux pour les petits clubs comme celui du président Nicolin. Attention, hein, je veux pas lui faire injure parce que le Montpellier Hérault est un club formidable, mais pour les petits clubs, le Paris Saint-Germain, que nous ayons atteint le milliard ou pas, ils s'en foutent de ces droits télé là. Ils les prennent, bien entendu, mais c'est pas
après, ce qui va les clubs comme Lyon, les empêcher de gagner. C'est un grand club. Hein.
Oui, après, il y a beaucoup de clubs
qui
sur les droits télé.
Bien sûr.
C'est une grosse perte.
On rappelle que sur Vincent Labrune, sur CVC, il a quand même pris beaucoup plus que Le Havre, par exemple, qui n'a rien pris.
Mais tout ceci avec l'assentiment du président du Havre également.
Le Havre était en Ligue 2 à cette époque-là, donc en fait il pouvait pas avoir ce sentiment-là, Pascal.
Mais comment, il a voté
Labrune,
il a été voté par les présidents des présidents de club.
Ok, mais après
donc le président du Havre, il s'est pas offusqué à ce moment-là qu'il touchait autant.
Après, il y a pas mal de clubs et notamment de Ligue 2 qui réclament à ce que cette élection du président soit reportée, parce que justement pour avoir un débat, pour voir d'autres projets peut-être.
C'est ça le plus important.
Voilà.
Et après, on voit encore une fois qui est-ce qui se détache, qui est-ce qui a le meilleur projet, qui est-ce qui a les meilleures idées. Mais faut pas que ce soit une élection entre guillemets pipée, quoi.
Les dés pipés, on verra ça. Et on suivra ça sur RMC, bien sûr, messieurs. On vient dans un instant dans les grandes gueules avec un nouveau zapping. Tiens, on aura le temps, je pense, de parler peut-être de Ligue 2, de la Formule 1 aussi, parce qu'il y a un nouveau coéquipier à Pierre Gasly l'année prochaine chez Alpine. On vous dit tout ça dans un instant, dans moins d'une minute. Le retour des grandes gueules du sport sur RMC. À tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Vous écoutez les grandes gueules du sport, il est 10h47, Pierre-Ambroise Boss, Pascal Duprat, Walid Acherchour, les grandes gueules du sport jusqu'à midi. Dans un instant, les GG passent la seconde, on va s'intéresser au nouveau sélectionneur des espoirs et de l'équipe de France féminine, Gérald Batic, Laurent Bonadei, qui ont été annoncés officiellement hier par la Fédé de foot. Est-ce que c'est un retour en arrière après les passages de Henri et de Renard? Ce sera dans 15 minutes, mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure d'un nouveau zapping dans les GG.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Tiens, on va commencer par de la Formule 1. L'Australien Jack Doohan, qui sera le coéquipier de Pierre Gasly l'année prochaine chez Alpine. On s'en fout pas. Pascal Duprat.
je m'en fous.
Walid Acharchour.
Je m'en fous.
Pierre Ambroise Boss.
Allez, un troisième.
Ah, voilà. Bah, donc, on en parlera pas.
Ben non, mais okay. Tout le monde s'en maîtrise pas. Donc.
Ouais, c'est pas une question de maîtrise, c'est juste que je pouvais vous donner quelques infos, mais c'est pas grave. Je suis pas vexé. On va parler de la fronde des supporters qui continue en Ligue 2. C'est le principe, c'est pas grave. Qui compte pour contester la programmation des matchs, la fronte des supporters en Ligue 2. On s'en fout pas, Pascal Duprat. Hein, je t'ai pas posé la question. Walid Acharchour. Pierre Ambroise Boss. Tu t'en fous ?
Non.
Ah non, tu t'en fous pas. Alors, on va en parler. Hier soir, il n'y a pas eu quand même de balles de tennis sur le terrain comme à Metz lundi dernier. Pas beaucoup d'action, mais toujours ces banderoles que l'on a vues, dont une qui est restée longtemps d'ailleurs devant les écrans, devant la caméra de beIN Sport. Ouais. Toujours le même message, hein. Le foot c'est le samedi, beIN Sport tue la Ligue 2. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a annoncé qu'une réunion devait avoir lieu la semaine prochaine entre la Ligue, beIN Sport, le diffuseur et l'Association nationale des supporters. Il y a eu aussi une lettre écrite aux supporters de la part de beIN Sport cette semaine pour justifier cette programmation. Voilà ce qui est écrit. Sans beIN, il n'y aurait probablement pas de multiplex du tout, que soit le jour, beIN étant le seul diffuseur à vouloir soutenir de manière conséquente la Ligue 2. Cependant, ce niveau d'investissement sans précédent n'est possible qu'en programmant les matchs le vendredi, le samedi, puisqu'il y a un match le samedi et le lundi. beIN Sport diffusait déjà le multiplex Ligue 2 à l'époque entre 2012 et 2020, et c'était déjà le vendredi. Ça a changé ensuite avec Amazon.
La raison, c'est que l'année dernière, c'était Prime Video qui avait le multiplex, ouais, de 19h, et que aussi sur les programmes, la programmation, il y a le match de Bundesliga, il y a un match de Ligue 1, ouais, qui arrive juste un peu avant.
Toi, ça t'arrange parce que tu peux pas suivre tout en même temps, oui, t'as deux yeux déjà.
Moi pour être honnête, je préfère avoir la Ligue 2 à 20h le vendredi.
Pour toi personnellement?
Pour moi personnellement, pour suivre un maximum de matchs, mais je comprends totalement que les supporters réclament le retour du samedi, parce que c'est vrai qu'il y a cette case du 19h avait trouvé son succès, avait trouvé son public, c'est beaucoup plus facile. Pour les matchs à l'extérieur, les supporters ne peuvent pas suivre leurs équipes le vendredi vu qu'ils travaillent. Donc ça, c'est totalement logique. Mais il faut aussi comprendre la gamberge de beIN Sport là-dessus. Mais j'ai cru en comprendre qu'il y avait des discussions. Il y a un député qui a
voilà, c'est pour ça qu'il y aura une réunion.
Voilà, il y aura une réunion pour en discuter, pour en parler.
Pierre Ambroise?
Non, mais le foot, il est pour les supporters, hein. C'est, donc il faut qu'ils soient respectés, tout simplement. Ça va pas plus loin.
Donc pas de match le vendredi, quoi, jamais.
Mais c'est le peuple qui doit décider plus que les instances médiatiques, même si ça a toujours été l'inverse, malheureusement. Mais les droits TV, enfin
c'est quand même l'économie qui décide.
Mais l'inertie est dirigée aussi par les gens qui regardent et les gens qui en discutent.
C'est quand même très difficile. Ouais. Très difficile de caser entre un samedi et un dimanche et la Ligue 2 et la Ligue 1. Et Walid a tout dit, en fait. Un, beIN Sport fait des efforts conséquents, ce qui est salutaire pour la Ligue 2.
Ils mettent 40 millions d'euros, avoir la Ligue 2. Hein,
et deux, nous avons des supporters qui aimeraient aller en famille au match le samedi, ils ne peuvent pas le vendredi parce que probablement ils sortent du boulot, parce qu'ils ont d'autres choses à faire, parce qu'ils peuvent pas se déplacer, ils peuvent pas aller à l'extérieur. Cela dit, je note que Saint-Etienne est en Ligue 1, Dieu merci, et Lens est en Ligue 1, Dieu merci, parce qu'en Ligue 2, Saint-Etienne et Lens, ils déploient du monde. Cherchez les clubs qui en déploient en Ligue 2 à l'extérieur, il n'y en a pas beaucoup. Donc les supporters, oui, ils font cette fronde-là, mais il y a les intérêts économiques et télévisuels
du
football.
Et donc on s'incline.
À part rajouter un jour de congé, faire en sorte qu'il y ait
un jour à la semaine, on pourrait faire des semaines de 8 jours.
Pourquoi pas bosser 12 heures par semaine.
Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait, il y a entre ceux qui vont au stade, donc la consommation au stade, mais est-ce que beIN Sport, il y a aussi ceux qui regardent à la télé.
Ceux qui regardent,
En fait, donc.
Plus il y en a de coincés, plus il y en a qui regardent.
Exactement. Donc en fait, là, il y a deux mondes qui s'affrontent. C'est entre ceux qui veulent aller au stade et vivre le moment au stade en famille, donc ils préfèrent le samedi à 19h parce que le vendredi, c'est très, très compliqué, sauf que beIN Sport, ils t'expliquent que eux, ils ont une grille et que le vendredi, si tu vas pas au stade, tu vas regarder beIN Sport.
Ouais, voilà,
donc exactement. En fait, en gros, il y a deux.
Ouais, de logique qui c'est un peu la même chose pour cette autre info que je vous propose dans le zapping, puisqu'un spectateur dénonce l'immense arnaque de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il réclame le remboursement de son billet. On s'en fout pas, Pierre Ambroise.
Il a bien raison.
Tu t'en fous ou pas?
Mais non.
Valérie Acharchour.
Répète, j'ai pas compris.
Un spectateur qui demande le remboursement de son billet qu'il avait pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
Et qu'il n'a rien vu.
Bah, je vais t'expliquer, tu t'en fous pas.
Ouais, je m'en fous pas.
Pascal Dupras.
Moi, je m'en fous pas, je veux savoir où il était placé.
C'est un spectateur qui venait de Bretagne pour assister à cette cérémonie.
En breton, en plus. Hein.
Il avait payé un billet 1 600 euros, mais il était dégoûté d'avoir passé 4 heures à regarder un écran géant. Il dit : j'ai vu que des bateaux passer au loin dans la pénombre, non éclairés, non décorés, sans rien voir des danseurs, des animations sur les quais. J'ai l'impression d'avoir été pris pour un gogo et d'avoir subi une immense arnaque, et donc je demande le remboursement à l'organisation.
Oui, bah c'est, manifestement, c'est pas une impression. Il a été pris pour un gogo, je connaissais pas l'expression, et j'aime bien, voilà. Je vais l'y prendre. C'est pas le seul, hein, y en a, moi j'ai plein de retours.
Mais
hein,
ça revient un peu au débat d'avant en se disant c'était vraiment une cérémonie faite pour la télé.
Oui.
Et pas faite
et
pour.
C'est ça qui me désole, mais le sport de plus en plus.
Et pourtant, c'était une cérémonie dite ouverte à tous. Pour la première fois.
Voilà, il commence à avoir des petites casseroles, même si les jeux ont été vraiment une réussite de bout en bout. Faut respecter les gens, sinon ça nous tombe dessus derrière. Et voilà, 1 600 balles. On parle de quelqu'un qui voulait rêver à la cérémonie. Attends, qui s'est pris une banane monumentale.
Mais attends, ça se trouve, il a économisé. Tu vois,
c'est pas à cause de la pluie, quoi. C'est...
Bah oui.
C'était prévu à l'avance, quoi. On va vous mettre une banane.
Voilà. Non, bah oui, il valait mieux être devant sa télé, évidemment.
Oui, effectivement.
Pour se régaler.
Oui,
c'était une grande cérémonie, une belle cérémonie.
Ouais. Non, c'est vrai. Moi, c'est vrai.
Pascal, un mot à dire sur ce.
Tout le dernier cas, parce que sur ce que tu viens d'affirmer.
Siri parle pas.
Je m'abstiendrai. Sur ce que tu viens d'affirmer, je m'abstiendrai. Voilà. Mais c'était bien, oui.
Ah, t'as pas trouvé ça bien.
C'était bien, voilà. Bon, il y a des trucs moins bien, mais c'était bien.
Sur le dernier quart d'heure,
voilà. C'était bien.
Le dernier quart d'heure était exceptionnel.
Ce qui est important, c'est que le président de la République soit bien placé. J'espère que lui a vu.
Oui, mais il
n'a
pas payé 1 600 euros, lui. C'est ça le truc. A priori.
Mais cela dit, 1 600 balles pour être devant un grand écran.
Ouais. Oui, c'est vrai que c'est. On peut le comprendre.
C'est cher.
Ouais. On peut le comprendre. Cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques, on en parlera d'ailleurs avec Alexis Anquincan, qui sera porte-drapeau de cette cérémonie. C'est mercredi prochain sur la place de la Concorde, sur les Champs-Élysées. Donc là aussi, peut-être qu'il faut préférer la télévision, je ne sais pas, mais en tout cas, il reste des places. Et c'est un peu moins cher, à partir de 150 euros, je crois que vous pouvez aller voir cette cérémonie d'ouverture mercredi prochain. Les GG reviennent tout de suite sur RMC. Plus de Thierry Henry, plus d'Hervé Renard. Place maintenant à Gérald Baticle et Laurent Bonadelli. Est-ce que vous considérez que c'est un retour en arrière pour les équipes de France Espoir et Féminine? On en parle avec vous au 32-16 dans les Grandes Gueules du Sport tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules du Sport.